Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser à la recommandation du jour. C'est celle du comité d'éthique qui se dit favorable à une aide active à mourir strictement encadrée. Une décision attendue qui ouvre la possibilité de légiférer sur l'euthanasie. Emmanuel Macron, lui, se dit favorable au modèle belge. Mais Rémi, que dit justement ce modèle belge ?
Alors, il faut d'abord savoir que chez nos voisins, l'euthanasie est désormais bien entrée dans les mœurs puisque la loi existe depuis 20 ans et qu'elle est même autorisée aux mineurs depuis 2014. Mais si la pratique s'est banalisée, elle reste très encadrée en Belgique. Il y a en fait trois conditions auxquelles on ne peut déroger. Le patient doit souffrir d'une ou plusieurs maladies incurables, endurer une souffrance qu'on ne peut pas apaiser, qu'elle soit psychologique ou physique, et enfin avoir fait une demande consciente et répéter pour que l'on abrège sa vie. Pour que les médecins procèdent à l'euthanasie, il faut aussi deux avis médicaux, même trois si le décès n'est pas imminent. Normalement, on a recours à un psychiatre qui vérifie s'il n'y a pas de problème psychiatrique chez le patient ou de dépression. Un dossier de validation est même parfois envoyé en amont à la commission de contrôle pour avis. Selon les chiffres officiels publiés l'an dernier, 60% des malades euthanasiés en Belgique souffraient d'un cancer. 2700 adultes ont bénéficié de cette aide active à la fin de vie. Parmi elles, l'an passé, il n'y a eu aucun mineur.
Alors, une loi sur l'euthanasie est-elle vraiment nécessaire ? Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau.
Oui, elle est nécessaire. Moi, j'ai accompagné deux fois des personnes en fin de vie, ma mère et mon père. Ma mère, c'était en 91, elle avait 49 ans, elle avait un cancer incurable. Et donc, on l'a accompagnée avec mon père jusqu'au bout. À l'époque, pas de soins palliatifs, pas d'unité pour accompagner. Donc, on avait fait un truc un peu empirique. Elle était restée à la maison. Le médecin venait donner des doses de morphine et il y avait une infirmière qui lui donnait la dose. Sauf qu'on n'était pas préparé psychologiquement. On n'était pas préparé aussi à des cas de convulsion ou de dégradation aussi physique. Et c'était très, très douloureux. La deuxième fois, c'était l'année dernière. Mon père a eu un cancer qui, lui, l'a emporté en 2 mois. Il a plus voulu se soigner. Et là, pour le coup, on avait des accompagnements en soins palliatifs dans une unité, un EHPAD qui était très bien fait pour ça. Sauf que là aussi, et c'est pour ça que la loi manque, c'est que lui, il aurait voulu partir plus tôt parce qu'il se savait condamné. On savait que de toute façon, l'issue était fatale, quoi qu'il arrive, ça n'était plus soignable. Et lui, il aurait voulu partir, je dirais, debout, enfin en tout cas, avec une dégradation physique du corps qui n'existe pas. Parce que l'accompagnement palliatif, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas souffert jusqu'au bout, sauf que le corps se dégrade. Et donc, dans le cas d'un cancer du poumon, il y a les poumons qui se remplissent d'eau, donc il y a des difficultés à respirer, tout ça. Donc on accompagne tout ça pour que la personne ne souffre pas, mais pour l'entourage qui accompagne ça, et même pour la personne, cette dégradation physique, elle est terrible à vivre. Donc en ce qui me concerne, moi, je veux partir debout. C'est-à-dire que si un jour j'apprends que j'ai une maladie incurable, je me débrouillerai pour partir avant que cette dégradation physique intervienne, de façon à ne pas être un poids pour ma famille et de façon à partir au moment où je l'aurais choisi. Je pense que c'est indispensable. Le droit de pouvoir mourir quand on veut est un droit fondamental que je pense qu'il faut respecter.
Oui, mais par exemple, dans l'affaire Vincent Imbert, oui, il n'était pas conscient. Donc là, par exemple, dans le modèle belge, oui, le patient doit donner son consentement et dire ce qu'il veut.
Avant,
quand le patient... Bah, d'accord, mais ça sous-entendrait que, par exemple, quand vous êtes en pleine forme, mettons, vous et moi, oui, on fasse déjà, oui, un papier, oui, sur le don d'organes.
Oui,
en fait,
absolument. Absolument, décider que, attention, pas d'acharnement, si je suis dans un état végétatif, on débranche, etc., etc. Et je pense que les querelles familiales, quand il y a effectivement quelqu'un à la suite d'un accident qui est dans un état végétatif, c'est très, très compliqué. Alors, il y en a un ou deux cas par an, c'est très rare. Dans l'ensemble, la plupart du temps, les gens sont d'accord pour ça, y compris la personne qui, avant qu'elle soit en état d'incapacité, elle avait aussi envie qu'on débranche. Enfin, personne n'a envie d'être végétatif sur un lit, hein.
Oui, mais alors, pourquoi faire une loi, Emmanuel Dancourt? Parce qu'on sait que, quand même, parfois, ça se passe un peu sous le manteau. Quand vous avez des proches à l'hôpital, on vous demande, est-ce que vous souhaitez le réanimer ou pas le réanimer? Il y a des questions, et le médecin comprend bien que si vous dites, bah non, le réanimez pas, que bon, bah, enfin voilà, ça se fait un peu j'aime pas dire ça mais sous le manteau finalement, les médecins ils sont quand même compréhensifs.
Non seulement ça, mais en plus il y a une lutte, excuse-moi juste avant que tu interviennes, il y a une lutte entre les médecins, moi j'ai vécu ça avec mon père, les médecins qui voulaient absolument lui faire des traitements pour continuer à prolonger de quelques semaines en fait, de quelques mois pas plus, et de l'autre côté l'équipe palliative qui disait on respecte la volonté du patient, il ne veut pas prolonger donc plus de traitement, juste on accompagne la douleur. Et cette lutte entre les médecins qui veulent absolument soigner et le palliatif qui t'accompagne, elle est encore très présente.
Elle n'aurait pas dû avoir lieu, parce que dans la loi Leonetti-Claes, qui est très claire, qui est très bien faite, ils dénoncent l'acharnement déraisonnable. Ce sont les termes qu'ils utilisent. Et ça, tu n'aurais pas dû avoir géré ça, l'acharnement déraisonnable. Autre chose, ce dont vous parliez, ce sont les directives anticipées, ce dont vous parliez juste avant. Et la loi Leonetti prévoit ces directives anticipées. C'est vraiment une loi assez récente, hein, c'est début 2016. De l'année 2016, voilà, exactement, qui a permis d'encadrer quand même beaucoup de choses par rapport à la fin de vie. Et pour moi, aujourd'hui à date, je pense que cette loi est suffisante. Et pourquoi je le pense ? Parce que les études ont prouvé que, alors attention, la loi Leonetti permet déjà un sacré accompagnement vers la mort. Hein. Il y a de la sédation douce, quand il y a vraiment plus d'espoir, on va pas vous laisser non plus, pardon de le dire comme ça, mais traîner encore quelques semaines quand ça va pas du tout. Il y a de la sédation douce avec l'accord de la famille, avec l'accord de la personne quand elle pouvait l'exprimer, etc. Les études ont prouvé que lorsque on s'occupe médicalement à 100% de vous, qu'on est au max et qu'on s'occupe humainement à 100% de vous, il y a pas mal de gens, mais pas les gens qui sont en fin de vie comme ton papa, hein, qui renoncent en fait au suicide. Ça, c'est une étude suisse, parce que là, on a parlé de la Belgique, moi je vais vous parler de la Suisse. Comme je suis franco-suisse, je vais aller voir comment ça se passait. On sait que la Suisse, ça fait bien plus de 20 ans, hein, et qu'ils ont permis le suicide assisté.
D'ailleurs, des gens, enfin des Français vont en Suisse.
Alors c'est autorisé, il y a des associations, il y a 4 associations suisses qui ont été mandatées pour s'occuper également, mais pas que, des étrangers. C'est vrai que c'est beaucoup de Français qui viennent, enfin des Français qui viennent, et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes, et la loi Suisse est en train de revenir depuis mai 2022, donc c'est tout récent, sur ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça ne se passait pas exactement comme en Belgique.
Bah c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, lui, prône le modèle belge. Voilà, pas le modèle suisse.
Ils avaient en fait délégué ça à des assos, donc il n'y avait pas de médecins. Aujourd'hui, ils sont en train de dire on va peut-être quand même mettre des rendez-vous avec médecins, deux rendez-vous obligatoires. Le problème dans la loi, enfin, dans ce qui se passe en Suisse actuellement, bon, d'abord, ça coûte une blinde, hein, c'est 9000 euros, il faut pouvoir les mettre. C'était délégué à des associations, et la personne qui voulait mourir, alors ça pouvait être tout style de personne, ça pouvait être quelqu'un qui est en pleine vie et qui, pour des raisons qui lui appartiennent, veut mourir. Aujourd'hui, ce sera plus possible. Ils vont prendre que des personnes qui doivent prouver leur souffrance, voilà, qui sont vraiment dans une maladie comme en Belgique, vraiment qui est absolument, on ne peut plus rien faire. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'en Suisse, c'est la personne elle-même qui devait s'injecter ou boire le poids du létal. Mais quand tu peux pas te déplacer de chez toi, quand tu peux plus ingurgiter, quand tu peux même pas, que t'es complètement paralysé, que tu ne peux même pas tourner la molette qui va te mettre le produit, c'était plus possible. Donc la Suisse est en train de se dire qu'ils ont ouvert trop largement les bras et ils sont en train de complètement resserrer le système pour diminuer aussi le nombre de suicides.
C'est pour ça que le comité d'éthique en France, ce matin, a rendu un avis très clair pour l'aide, l'assistance à la fin de vie, très encadré, comme ça se fait en Suisse, parce que très rapidement, mais ce matin je lisais le témoignage d'une jeune femme qui était interrogée sur le sujet dans un quotidien sur la fin de vie. Elle expliquait qu'elle, il y a 10 ans, elle a souffert d'un cancer. À ce moment-là, les médecins lui ont dit, malheureusement, on a très peu d'espoir, on pense pas que vous puissiez passer le cap. Et à ce moment-là, elle a pensé au suicide. Elle ne l'a pas fait, elle a décidé de se battre. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est guérie. Donc, il faut vraiment que ça soit encadré.
Fred Hermel, est-ce qu'il faut légiférer sur l'euthanasie ?
Alors déjà, je voudrais dire que j'ai à peu près des avis tranchés sur tout. Mais sur ce sujet, j'écoute Emmanuel, j'écoute Thierry et j'entends tous les arguments et je n'arrive pas à me décider. D'accord. C'est vrai que la loi Claes-Leonetti, elle est quand même très très bien.
Ah oui, hein.
Si déjà on pouvait l'encadrer, si on pouvait déjà l'appliquer plus souvent.
Ce qu'a vécu Thierry, c'est pas normal.
La faire plus connaître, la plus, plus l'appliquer.
Après, c'est moi, ce que j'ai des gens tous les jours.
Après, l'exemple, tu disais Estelle, comment ça se passe sous le manteau. Moi, je sais que ma mère m'a dit que quand ma grand-mère est morte, le médecin lui avait dit, elle avait 87 ans, elle était à l'hôpital, elle allait mourir. Le médecin dit, je lui ai donné ce qu'il fallait pour qu'elle s'endorme tranquillement. Qui est une euthanasie active. Mm-hmm. Ça m'a un peu choqué, je dois dire, a posteriori. La peine passée, je me pose la question.
Vous auriez pu demander l'autorisation.
Mais voilà, mais c'est pour dire que, en fait, l'euthanasie, elle existe en France.
Donc il y a bien besoin de l'encadrer.
Oui, non, mais dans
ça
les faits,
pas rester comme
encadré.
Ça.
Je suis pas sûr. La loi
dans les faits, l'euthanasie existe dans notre pays.
Bah oui.
Ensuite, alors, peut-être que je suis un mauvais penseur, mal pensant, on dit en français, mal pensante en espagnol, c'est parfois les mots qui ne viennent pas. Quand il y a une réforme sociétale en période de crise économique et sociale, je m'interroge toujours. Je m'interroge toujours si on n'essaye pas là de lancer un débat pour faire oublier ce qu'on vit.
Non, non, parce que je me fais l'avocat du diable.
Ouais,
et il en avait parlé déjà il y a quelques années. Et puis après, c'est un vrai débat de société.
Il y a une position très floue d'ailleurs sur le sujet.
Et c'est pas la première fois qu'on en parle aussi dans Estelle. Le débat est sur la table depuis assez longtemps.
Mais la loi Leonetti est très bien. Je vois pas pourquoi on revient pour l'instant.
Alors justement, on va demander son avis à Sébastien qui nous appelle de Limoges. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et Sébastien, vous avez accompagné votre maman il y a 2 ans, votre maman qui était en fin de vie.
Oui, tout à fait. Elle avait un cancer du foie diagnostiqué un peu tardivement finalement.
Et ça s'est passé comment? C'est-à-dire que est-ce que vous avez demandé au médecin d'abréger ses souffrances? Est-ce que elle vous l'a demandé?
Alors moi je savais tous les enfants savaient qu'elle voulait pas d'acharnement là-dessus, c'est sûr. Qu'elle aurait aimé un accompagnement, on va dire, un petit peu plus humain. Quand j'entends Fradermel, je me dis que je ne suis pas dans le même pays que lui, je pense. Et elle, comme c'est diagnostiqué tardivement, l'analyse met du temps à arriver, en fait. Donc la souffrance est là, le temps d'avoir l'analyse et de savoir exactement médicalement ce qui se passe ou pas. Les médecins ont besoin de réponses scientifiques, donc ils attendent cette analyse, les différentes analyses qu'ils ont lancées. Une fois que vous avez l'analyse, vous déterminez que c'est la fin, qu'il n'y aura pas grand-chose à faire et qu'il va falloir accompagner. À partir de là, la loi Leonetti, elle dit, je vais plutôt parler pratico-pratique, elle dit il faut accompagner, il faut sédater gentiment. Donc ma mère, elle était sédatée, et puis toutes les 20 minutes, elle se réveillait avec les yeux en larmes. Si elle avait pu crier, elle aurait crié. Enfin bon, c'était ahurissant de voir ça, quoi. Et donc, on est tous un peu montés au créneau et on a rencontré les services, les différents services médicaux et d'accompagnement. On se rend compte là qu'ils sont complètement bloqués, ils sont complètement paralysés par une administration française qui est exsangue. Il n'y a plus d'humanité là-dedans. Hein. Enfin, on ne parle plus de malade là. On parle de quelqu'un qui va mourir et donc on va le sédater juste pour que le corps lâche. Donc on ne l'accompagne pas. On fait en sorte que le corps lâche. C'est très différent. Il n'y a pas d'humanité dans cette démarche. Je pense que ce sont des gens qui sont convaincus et passionnés par leur métier. J'ai un profond respect pour l'équipe que j'ai rencontrée. C'est une équipe de très grande qualité. Mais passer ce stade-là, il n'y a plus d'humanité dans ces relations-là. Et donc, moi, je vous le dis très clairement, si ma mère avait été à l'époque branchée à une machine et que pour l'aider à partir, il fallait débrancher de la machine, j'aurais mis un siège derrière la porte et j'aurais débranché. Hein.
Ouais, voilà. Je comprends ce que vous dites, Sébastien. Et ce que vous racontez, c'est ce que vivent de très très nombreux proches de malades de cancer en phase terminale. Et de toute façon, on n'a jamais envie de voir l'état physique de ces proches se dégrader. Et on se dit toujours, ils n'auraient pas souhaité ça.
C'est pour ça que votre raisonnement a une limite. C'est-à-dire qu'on peut sédater d'abord de manière douce et ensuite la sédation profonde. Mais il y a des moments de lucidité, comme l'explique très bien l'auditeur. Il y a une dégradation physique du corps dont le patient se rend compte. Et il te dit, mon père m'a dit plusieurs fois, je voudrais déjà que ça soit terminé.
Chaque cas est la difficulté de ce sujet, c'est que chaque cas est personnel. Monsieur m'a interpellé, etc. Mais après, chacun son expérience.
Mais d'accord, mais il faut l'encadrer.
La phase terminale du cancer, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu. Et les témoignages, ils sont
terribles. Mais oui, ils sont terribles. Mais le problème, c'est qu'après, chacun vit ces choses-là.
Sauf que la réponse que tu donnes, toi, c'est une réponse empirique en disant, ben voilà, le médecin, il a aidé ma grand-mère.
Et moi, ce que je lis de la loi Claes Leonetti, c'est plutôt bon.
Elle ne suffit pas.
De toute façon, Thierry, ne t'inquiète pas, ça va aller dans le sens de l'histoire et cette loi, elle sera votée à un moment ou à un autre en France. C'est tous les pays européens, les uns après les autres, y arrivent.
Ce sera certainement pour 2023. On est avec Jonathan Denis, les présidents de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur ce débat compliqué. Cette loi sur l'euthanasie, pour vous, elle est nécessaire?
Bien sûr, elle est nécessaire. Je suis ravi de ce qui a été rendu aujourd'hui par le comité d'éthique. Elle est nécessaire, mais on le voit dans le débat que vous avez, parce que non, la loi Claes Leonetti n'est pas une bonne loi. On ne peut pas dire ça sur cette loi de 2016. Il faut être à l'agonie pour pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. On ignore donc énormément de maladies, dont des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, il faut une loi de libre choix. C'est pas pour ou contre la légalisation de l'euthanasie. C'est permettre à chaque... d'être respecté dans ses volontés, parce qu'il y a un moment donné, quand vous avez une maladie grave et incurable, quand vous avez des souffrances physiques ou psychiques qui sont réfractaires, eh bien vous devez pouvoir dire « je ne souhaite pas spécialement d'une sédation ». Faut-il rappeler que la sédation peut durer quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines.
Oui.
Hein, on part pas en quelques heures, on altère votre conscience, on arrête l'alimentation et l'hydratation. C'est ça la sédation.
Tout à fait.
Donc effectivement, une loi qui respecte tout le monde. C'est pas l'euthanasie pour tous. Ça ne s'imposera évidemment pas à tout le monde. Et il faudra également respecter les médecins qui auront le droit à une clause de conscience, évidemment, s'ils ne souhaitent pas pratiquer l'aide active à mourir. Mais enfin, on arrive à ce sujet important qui est le respect du choix de chacun.
Oui, mais alors justement, moi, Jonathan Denis, j'ai quand même une question, c'est que on parlait des malades du cancer en phase terminale, des moments de lucidité et des moments de non-lucidité. Comment on fait si, par exemple, un patient n'est plus forcément lucide, donc c'est pas lui qui va prendre la décision, mais ça va être ses enfants. Mais vous avez des enfants qui vont dire mais attends, papa n'aurait pas souhaité être comme ça. Puis d'autres qui vont dire ah bah oui, mais c'est pas à nous de prendre la décision. C'est quand même quelque chose de très compliqué. S'il n'y a pas eu, je veux dire
de directives anticipées,
comment on fait quoi?
Ah mais on est parfaitement d'accord. Là il y a un autre sujet sur les directives anticipées et la personne de confiance. Quand je parle du libre choix, je ne souhaite pas demander à un médecin de pratiquer une euthanasie sur quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est aujourd'hui ce qui se passe parfois en France. Hein. Mais sur les directives anticipées, je souhaiterais revenir sur quelque chose qui a été dit de faux. C'est pas la loi de 2016, la directive anticipée, c'est bien avant. La loi de 2016, elle a simplement dit c'est plus valable 3 ans, mais valable indéfiniment. Donc aujourd'hui, c'est à l'État, et le Conseil d'éthique le dit, c'est à l'État de mener une vraie campagne de communication sur les directives anticipées. On ne va pas me faire croire que c'est compliqué de les mettre sur une carte vitale quand même, ces directives anticipées. On ne va pas me faire croire que c'est compliqué de créer un fichier national d'un fichier national qui reprenne ces directives anticipées. C'est pas compliqué puisque c'est nous à la DMD qui le gérons gratuitement aujourd'hui. Eh bien, que l'État mette les moyens pour inciter les Français à faire ces directives et à désigner des personnes de confiance. Et puis, dans la loi, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qui se passe en absence de directives anticipées de personnes de confiance?
C'est ça. C'est ce que je vous dis.
Voilà. En Belgique, il y a eu ce débat-là. Il y a un ordre de primauté qui est fait dans la famille. Et effectivement, on n'aurait pas des affaires familiales comme on a pu, hélas, l'avoir sur Vincent Lambert. Donc, il faut y réfléchir dans la loi, évidemment.
Restez avec nous, Jonathan Denis, parce que vous allez peut-être pouvoir répondre aux questions et aux interrogations de nos auditeurs. On est avec Valérie qui nous appelle d'Annecy. Bonjour, Valérie.
Oui, bonjour. Bonjour, Estelle. Merci, vous êtes un rayon de soleil.
Oh, c'est gentil, Valérie.
C'est le nôtre aussi.
Merci.
Alors moi, je vais vous expliquer. J'ai 56 ans. Depuis l'âge de 20 ans, je perds la vue. À l'année de mes 40 ans, 2006, je suis tombée de ma terrasse. Je suis paraplégique très haute, au-dessus du nombril. Alors, bien sûr, je marche plus. Je suis en fauteuil. J'ai des douleurs physiques énormes. Personne n'arrive à les calmer. Ça fait 6 ans qu'on me traite, on n'arrive pas. En fait, j'ai des brûlures dans les jambes. Et c'est même plus de la douleur, c'est de la torture, tellement que ça me brûle dans les jambes. L'autre chose, il faut savoir que, bon, pour l'instant, je suis à la maison, je me débrouille, j'arrive à faire mes transferts, lit, tout ça. Mais il faut savoir que tous les matins, depuis 16 ans, j'ai une infirmière ou un infirmier qui vient m'enlever les selles, donc se mettre leur doigt dans... Parce qu'il faut appeler un chat à chat et parler des choses vraiment. Me mettre le doigt dans le rectum pour me vider l'ampoule rectale, qui des fois est vide. Donc les selles sortent quand elles veulent dans la journée, puisque ça ne marche plus. Je me sonde toutes les 4 ou 5 heures, suivant ce que je bois. Jour et nuit, on est bien d'accord. C'est-à-dire, je m'enfile une sonde par le méa, voilà. Alors, après, il y a tout ce qui est accessibilité. Il y a tout ce qui est... j'ai le droit qu'à une douche par semaine, le mercredi matin entre 9h et midi. Sinon, c'est la toilette au lit. Il faut savoir que les infirmières ne veulent plus les faire les toilettes au lit, ni les aides-soignantes. Ce n'est pas rentable pour elles. Ils veulent plus non plus faire les soins, comme je vous ai expliqué, vider les ampoules rectales des personnes tétra ou paraplégiques. Donc moi, aujourd'hui, j'ai élevé ma fille. Elle avait 5 ans quand je suis tombée. Elle a aujourd'hui 21 ans. Aujourd'hui, ça va. Je vis avec mes douleurs. Mais dans 10 ou 15 ans, je pourrais plus me nettoyer tout seul quand je me ferai caca dessus. Je pourrais plus faire le transfert fauteuil-lit ou fauteuil-voiture. Alors moi, je pose la question à Monsieur Leonetti et tous leurs compagnons. Vous en voulez de cette vie?
C'est pas ça le problème que vous avez, Valérie. Le problème que vous avez, c'est que oui, mais moi, mon meilleur ami est handicapé au même niveau que Valérie, et il m'a raconté ce que vous me racontez, la douche une fois par semaine et tout ça, c'est effrayant, et tout ce que dit Valérie est totalement vrai. Mais si vous étiez mieux prise en charge,
Mais il n'y a plus de prise en charge.
Non, mais attendez, je suis sur le si. Si on vous prenait mieux en charge, on prenait mieux votre corps en charge, que vous aviez droit à la douche tous les jours comme nous, si vous aviez plus d'entourage, est-ce que ce serait pas...
Moi, je vois arriver chez moi des gens par le SIAD, je les connais pas, et ils vous donnent la douche, ils vous lavent les fesses, vous la voulez cette vie-là? Votre dignité, elle est où dans tout ça? Ça fait 16 ans qu'on me lave les fesses et tout ça. Elle est où votre dignité? Au bout d'un moment, vous êtes fatigué de tout ça. Et comme je vous dis, il y a non seulement le problème moral, psychique, mais j'ai une douleur physique. Les gens me brûlent.
Je sais.
Ils ont tout fait, j'ai tout essayé. Donc il y a un moment donné... Alors évidemment, j'habite à Annecy, j'ai été me renseigner en Suisse. Alors c'est pas 9 000, c'est 10 000 euros. Et c'est vrai que maintenant, on voit des médecins. Alors ils commencent à revenir dessus parce qu'évidemment, ils voient trop de Français arriver. Oui. Et des Français qui n'ont pas forcément des cancers en fin de vie, des choses comme ça, mais des gens... Parce que ma famille, elle morfle à côté. Ils nous voient. Ils voient à quel point on souffre, à quel point on n'a plus de vie sociale, à quel point je sors plus le soir de peur de me faire caca dessus. Et quand je me fais caca dessus, il faut qu'après je me nettoie toute seule parce qu'il est 21h et que je peux pas appeler l'infirmière, elle ne viendra pas. Vous en voulez de ces dits? Et bien, dans 10 ou 15 ans, moi, je veux pas que ma gosse, elle paye un EHPAD ou je sais pas quoi pour me mettre là-dedans et qu'on viendra me changer pour attendre que je meure. Non. Tout le monde dans ma famille est d'accord pour dire, eh ben, on va, le jour où tu es d'accord, on part tranquillement dans un joli cadre. Et voilà, j'ai une maison de campagne, bah, ça sera là-haut. Et même la famille, c'est un soulagement pour eux.
Mais aujourd'hui, Valérie, ça veut dire.
6 ans, ça va. Mais je vous parle dans 10 ou 15 ans. Moi, répondez à ma question. Monsieur Leonetti, vous en voulez de cette vie?
Je comprends, et votre témoignage il est absolument bouleversant, Valérie. Est-ce que ça veut dire que vous avez fait des directives anticipées, ou alors est-ce que vous allez faire ça, si je puis m'exprimer, en famille? C'est-à-dire,
j'ai donné mes directives anticipées écrites sur papier. Elle sait pas où les mettre. Sur le compte Amélie, ça rentre nulle part.
Ben
comme
voilà.
Disait le monsieur d'avant, la carte vitale, ça rentre pas dessus. Donc oui, elles sont dans mon... Alors j'ai dit à ma fille, tu vois ma fille, si un jour il m'arrive vraiment encore plus que ce que j'ai déjà, voilà. Mais toute ma famille le sait. Ils me voient souffrir. On n'a plus de vie, moi j'ai plus de vie. Alors je reste vivante pour ma fille, il n'y a pas de souci. Alors sinon, oui, bien sûr, je pourrais avoir les décachets, mourir tranquillement chez moi et me suicider. C'est ça qu'ils veulent. Leonetti, c'est ça qu'il veut en fait. Voilà. Et après, on n'est pas dans l'intouchable. Hein. Moi, j'ai pas un monsieur, je peux pas payer quelqu'un 24 heures sur 24 pour m'aider. D'accord? Voilà. Les transports à Annecy, l'accessibilité dans les bus et tout, ça va, ça s'améliore. Mais c'est très peu. Il y a plein de magasins où je peux pas rentrer.
Et merci.
Tout est comme ça, tout est comme ça. Alors, moi, je dis à ces gens, vous en voulez cette vie? Bah, venez vivre 3 jours avec moi, jour et nuit. Et après, on en reparle de la loi Leonetti et tout ce qui s'ensuit.
Je suis très touchée par votre témoignage, Valérie, et c'est vrai qu'en vous entendant, on comprend aussi beaucoup de choses, parce que effectivement, on a parlé du cancer, des gens qui sont à l'hôpital, mais des gens qui sont pas à l'hôpital et qui souffrent énormément et dont les proches souffrent. Et ce que dit Valérie, c'est extrêmement intéressant. Jonathan Denis, on fait quoi dans les cas comme ça? Parce qu'on a beaucoup parlé des cas en hôpital avec des médecins, mais là, c'est même pas la même chose.
Non, c'est le domicile, mais évidemment, et le témoignage est extrêmement touchant de Valérie. On parle bien d'affection accidentelle également. Alors, moi, je suis horripilé, je suis désolé par la réaction que là, il y a eu en plateau de paternalisme, de dire, mais si, madame, vous étiez mieux prise en charge. Mais attendez, dans ce sujet, c'est quand même si compliqué que ça de laisser la parole aux patients.
Exactement.
De se dire qu'on n'a pas la vérité pour les autres.
Attendez, Jonathan, excusez-moi, je vous dis que mon meilleur ami Nicolas, il vit à Roubaix, il est handicapé,
madame,
et je sais que
c'est une question de liberté et de dignité.
Pardon, c'est important. Excusez-moi. Moi, j'ai vécu plusieurs jours avec lui. J'ai vu ce qui se passait chez lui. Je me suis occupée de lui. Je sais exactement ce que traverse cette dame et elle me brise le cœur et je la comprends. Mais attends, je la comprends tellement. Seulement, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, il changeait tous les jours d'infirmière ou de. C'était insupportable, insupportable. Et à un moment, il a changé d'agence. Il est tombé sur une nana super bien, tellement bien qu'il a fini par l'épouser. Au bout de quelques années. Et là, il a trouvé quelqu'un qui a su s'occuper de lui. S'occuper
mais
de son corps,
mieux,
qui a accepté
madame.
De prendre. Mais ça change mais déjà la vie, ça change pas.
Mais tous les cas sont particuliers.
C'est ce que Fred disait tout à l'heure, tous les cas
oui,
sont
mais
particuliers.
Mais tu peux pas transposer
mais ne m'attaquez
ton exemple
pas
à quelqu'un.
La liberté,
non,
on veut laisser la liberté et la dignité aux gens. La liberté et la dignité.
Je dis juste, mais attendez, mais c'est
non.
Oh! Je suis en train de dire que je suis en totale empathie avec cette dame et que si les services sociaux étaient un peu mieux organisés, ce serait peut-être un petit peu moins dur et elle pourrait tenir un peu plus longtemps et peut-être
c'est
qu'elle pourrait tenir jusqu'à ce
qu'elle
ait ses petits-enfants. Elle parle de 10 à 15
c'est
ans. Arrive, voilà. Mais ça pourrait l'aider déjà. Je dis pas qu'il faut pas faire la loi.
Pourquoi ne pas lui laisser la liberté à elle?
Je dis juste qu'il faut que les services sociaux s'organisent pour mieux aider ces gens-là. Punaise. Je dis pas l'inverse. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Jonathan Denis.
Excusez-moi, madame, je ne vous ai pas du tout compris comme ça. Alors, effectivement, tant mieux, mais à ce moment-là, bah, évitons peut-être un ton paternaliste. Je suis désolé que vous vous soyez énervé, mais ce n'est pas du tout comme ça que j'ai compris sur votre prise de position. Mais il y a des gens, effectivement, votre meilleur ami, mais tant mieux, moi je me battrai toujours pour qu'ils puissent le plus longtemps possible se battre et avoir à sa disposition des soins palliatifs de qualité, parce qu'il en faut aussi partout et pour tous.
Complètement.
Mais il y a des personnes pour qui ce n'est plus possible. Et le témoignage de Valérie nous l'explique très clairement. Et effectivement, Valérie, vous posez une question à Jean Lonetti, mais qu'on lui pose toutes et tous. Mais il faut savoir que Jean Lonetti, il a quand même déclaré qu'il avait arrêté des respirateurs dans sa vie. Donc Jean Lonetti, sous couvert aujourd'hui de sa loi qui serait si fantastique, lui-même reconnaît qu'effectivement, il y a des situations où il n'a rien pu faire. On ne demande pas une loi qui impose des choses à tout le monde. On demande juste le respect du choix de chacun. Et ça ne me semble pas compliqué dans notre société de se dire la fraternité, c'est d'accompagner jusqu'au bout toutes les personnes sans les juger.
Mais merci beaucoup en tout cas Jonathan Denis d'avoir été avec nous et je remercie tout particulièrement Valérie dont vraiment moi le témoignage m'a bouleversé. Merci beaucoup Valérie voilà d'être intervenue dans Estelle Midi et de nous avoir confié tout ça parce que c'est précieux et merci d'avoir été avec nous. Dans un instant le zapping, le meilleur d'RMC, ce sera juste après cette courte pause. À tout de suite.
RMC midi 15h,
Estelle Midi.